Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Yannick Trigans, conseiller régional d'Île-de-France, secrétaire national adjoint au Parti Socialiste, chargé de l'éducation. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, première question, Yannick Trigans. Cette semaine, Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 6 mois. Son gouvernement est constitué d'anciens responsables des Républicains ou du Parti Socialiste et de personnalités de la société civile. Est-ce que ce début de mandat d'Emmanuel Macron est positif selon vous?
Écoutez, je pense qu'il faut d'abord, Emmanuel Macron est élu président de la République, donc il a bien évidemment une légitimité démocratique. Moi, ce que je retiens, c'est que si sur le plan international, il a pu donner à sa fonction la place qui est la sienne, il disait en arrivant et pendant l'élection présidentielle qu'il était ni de droite ni de gauche, ou et de droite et de gauche. Moi, j'observe que le bilan quand même de ces premiers mois ont démontré, de par les décisions qu'il a pu prendre, qu'il était de gauche ni de gauche. Parce que les mesures qu'il a prises créent quand même une aggravation des inégalités dans un certain nombre de domaines dont on va peut-être reparler. Donc, il a donné une inflexion tout de même centre droit, au moins, avec une politique pour l'instant extrêmement libérale.
Et pourtant, Christophe Castaner, le futur président d'En Marche, Richard Ferrand, le président du groupe En Marche à l'Assemblée nationale, était socialiste. Vous avez siégé à leur côté à l'Assemblée nationale.
Oui, au moment où il a fallu faire des choix pour l'élection présidentielle, certains socialistes, pas si nombreux que cela, à vrai dire, ont fait le choix de rejoindre Emmanuel Macron. Pour ma part, j'ai toujours fait le choix de soutenir le candidat du Parti Socialiste. Je l'ai fait et j'ai même d'ailleurs été son responsable sur la question de l'éducation pendant la campagne. Donc moi, j'ai fait le choix de rester au Parti Socialiste. Je respecte le choix de ceux qui n'ont pas fait ce choix-là, mais moi, je m'assume comme socialiste.
Alors Yannick Trigans, sur les réseaux sociaux, vous avez listé un certain nombre de thèmes qui montrent, selon vous, que la politique menée par Emmanuel Macron n'est pas une politique de gauche. Alors vous avez cité notamment la suppression du tiers payant généralisé, le gel des pensions de retraite en 2018, la baisse de la prestation d'accueil du jeune enfant. Pour vous, clairement, les choix qui ont été faits sont des choix de droite.
Alors, de droite, je dirais d'une politique libérale. Je crois qu'il faut essayer d'être assez juste sur les termes. Je pense qu'il s'agit d'une politique libérale, assumée, avec... quand même, le Premier ministre n'est pas un homme de gauche, à ma connaissance. Son ministre de l'économie et des finances non plus. Donc, il y a comme cela un certain nombre de ministres dans son gouvernement. Mais à la limite... Peu importe, ce qui est important, ce sont les actes. Et il est vrai que les mesures qui ont été prises depuis un certain nombre de mois, vous venez d'en citer, je pourrais également citer la question des décisions que le président de la République a prises avec son gouvernement à l'encontre des collectivités, qui sont, et moi je suis conseiller régional, et donc je vois les incidences qui sont prises en termes de décisions. La suppression, par exemple, pour les villes de la taxe d'habitation, les économies de 13 milliards demandées à nouveau aux collectivités, la baisse des contrats aidés, on en reparlera peut-être, le rabotage de 300 millions de dotations en 2017, plus ce qui se dessine en 2018, montre à l'évidence que ce gouvernement n'a pas fait le choix de réduire les inégalités. Et quand on voit les largesses qu'il accorde, notamment aux personnes les plus riches, on voit bien qu'il y a un choix qui est fait, qui est le choix... des classes les plus favorisées. D'ailleurs, le sondage qui récemment a montré que pour une très grande majorité de Français, la politique menée en faveur des classes favorisées, c'était 63% des gens interrogés qui considéraient que c'était une politique pour les classes favorisées et seulement 3% considéraient que c'était une politique pour les gens de milieu de modeste. Donc les Françaises et les Français ne s'y trompent pas.
Et en même temps, on en est au début du quinquennat. Est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour juger la politique d'Emmanuel Macron?
Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que Je ne suis pas, et les socialistes ne sont pas dans une opposition systématique. Vous voyez, lorsque des choses vont dans le bon sens, nous le disons, nous le votons à l'Assemblée nationale, lorsque nous considérons que cela va dans le sens d'une réduction de lutte contre les inégalités, de plus de solidarité, nous le disons. En même temps, lorsque les choses ne vont pas, nous le disons aussi. Donc, bien évidemment, il a encore du temps devant lui. Mais enfin, il est là maintenant depuis 6 mois. Il a pu prendre un certain nombre de décisions. Et on voit bien qu'il y a une tendance quand même très nette à ce jour pour favoriser finalement les plus riches. C'est une réalité liée aux décisions politiques.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la baisse drastique de la dotation aux collectivités locales dans la région Île-de-France, région dont vous êtes l'élu. Ça a quelles conséquences directes ? Quels sont les secteurs qui seront impactés par la baisse du budget ?
Oh ben, on va bien voir que sur les questions liées notamment à la politique de la ville, permettait, je vois par exemple dans mon département de Seine-Saint-Denis, les réductions très importantes de politique de la ville vont gréver les actions dans les quartiers, au plus près des associations, au plus près des citoyens. Ça va avoir un impact très direct. La politique qui est décidée aussi concernant le logement, avec quand même la baisse des APL de 5 euros est quand même assez dramatique, notamment pour toute une série et une catégorie de la population, les étudiants, mais pas seulement, les jeunes, les gens de conditions modestes, en mettant d'ailleurs les bailleurs dans des situations extrêmement difficiles. Donc la question du logement, la question de la politique de la ville, ça va aussi avoir bien évidemment des impacts sur les questions de santé, parce que la remise en cause du tiers payant généralisé est quand même une mesure aussi qui va impacter sur nos populations. Et dans ces cas-là, ce sont les collectivités qui sont en première ligne pour avoir à pallier les carences de l'État.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, Yannick Trigance, la baisse du nombre d'emplois aidés. Les députés ont entériné cette décision cette semaine. Ça a quelles conséquences dans un territoire comme le vôtre, par exemple à Épinay-sur-Seine ?
Très clairement, dans une ville comme la ville d'Épinay-sur-Seine ou dans la ville de Neuilly-sur-Marne où je travaille, on le voit très directement, par exemple dans nos écoles, les contrats aidés permettaient sous deux aspects. Premier aspect pour les directrices et directeurs d'école d'avoir une aide administrative dans des écoles où il y a beaucoup de classes, où les directrices et directeurs sont quand même de plus en plus sollicités en termes de travail et qui souvent sont chargés de classe, disposer d'une aide administrative. Ces aides administratives, dans bon nombre d'écoles, vont disparaître et les directrices et directeurs d'école, au moment où je vous parle, pour un certain nombre d'entre eux, se retrouvent sans aucune aide administrative. Deuxièmement, c'est bien évidemment un sujet extrêmement important, c'est l'accompagnement des élèves porteurs de handicap, où il y avait auparavant des personnels auprès de ces enfants pour que ces enfants, comme ils y ont droit, puissent être scolarisés. On parle d'école inclusive, d'école de la confiance. Avec ces moyens humains en moins, nous avons des enfants handicapés qui ne pourront plus être scolarisés ou qui n'auront plus d'accompagnement pour pouvoir bénéficier d'une bonne scolarisation.
Alors, le gouvernement a validé les ordonnances travail, ça a été contesté par la gauche. Finalement, est-ce que ces ordonnances n'ont pas été possibles par la loi El Khomri qui avait été critiquée par les frondeurs du Parti Socialiste ?
Écoutez, je crois que la discussion dans les lois El Khomri, qui ont quand même marqué un certain nombre d'avancées positives dans le domaine du travail, mais qui se sont, à mon avis, avec le recul, inscrits dans une séquence politique extrêmement défavorable. À la polémique qu'il y avait eu, tout le monde s'en souvient, sur la déchéance de nationalité, où nous étions dans un climat extrêmement difficile et où, malgré toute la bonne volonté de la ministre El Khomri et du Premier ministre Bernard Cazeneuve, que je salue d'ailleurs, n'ont pas pu amener dans de bonnes conditions ce texte de loi. Là, nous sommes dans une nouvelle période, dans un nouveau cycle politique, et le président de la République et son gouvernement ont mené au pas de charge cette réforme par ordonnance qui a soulevé un certain nombre de contestations, mais qui, au bout du compte, est passée.
Comment se fait-il, Yannick Trigance, que l'on entende finalement si peu le Parti Socialiste dans l'opposition à Emmanuel Macron ? on entend davantage la France insoumise, qui a pourtant moins députés que le PS à l'Assemblée nationale.
Vous avez raison de le rappeler, puisque les socialistes sont à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, le premier groupe d'opposition à gauche. Simplement, il y a une réalité, c'est que nous avons été battus aux élections présidentielles, très nettement, puisque nous avons quand même eu un candidat qui n'a fait que 6,5%, et dans l'histoire du Parti socialiste, ça ne s'est pas produit souvent, fort heureusement. Nous avons perdu les élections législatives, et nous sommes passés de 277, je crois, de mémoire, députés à, donc aujourd'hui, à peine une trentaine de députés. Nous avons été battus, et forcément, nous ne sommes pas audibles à ce moment. Pour autant, je veux saluer le travail qui est fait par les parlementaires qui interviennent, qui proposent des amendements, qui s'expriment. Nous avons aussi beaucoup encore d'élus de maires. Nous avons des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, conseillers municipaux. Et donc, nous avons encore une présence. Mais nous sommes dans une période où le Parti socialiste, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais est en train d'analyser ce qui s'est passé. On ne peut pas sortir de cette période en considérant qu'il ne s'est rien passé. Et donc voilà, mais nous menons notre travail d'une opposition constructive, encore une fois, parce que finalement, il faut le dire aussi, moi je respecte profondément les médias et les journalistes, vous vous en doutez bien, mais les médias ont aussi, quelque part, un peu choisi les opposants au président de la République. Et l'opposant qui a été choisi un peu par les médias et que les médias mettent un peu en avant, ça a été pendant longtemps Jean-Luc Mélenchon.
Peut-être parce qu'il a beaucoup de talent aussi.
Il a peut-être du talent, mais je pense que la politique qu'il propose est une politique qui est un leurre et qui emmène les gens, pardonnez-moi l'expression, dans le mur. C'est une divergence que j'ai avec ce mouvement politique, parce que je pense que être dans l'opposition pour être dans l'opposition, systématique, sans rien proposer, c'est finalement donner le message que, sur le fond, on n'a pas envie d'être aux responsabilités. C'est tellement plus facile de dénigrer tout le temps. Pour notre part, nous ne sommes pas dans ce dénigrement systématique. Nous sommes pour une opposition constructive, raisonnée, et qui surtout fait aussi des propositions, parce que nous, les socialistes, nous aspirons à diriger le pays et à être en responsabilité.
Yannick Trigans, est-ce que vous soutenez l'idée d'une suppression des cotisations sociales qui va donner du pouvoir d'achat aux salariés ?
La suppression des cotisations sociales, alors je ne sais plus qui a fait cette proposition, je crois qu'elle émane très directement donc du groupe de la majorité actuelle, si je ne me trompe. Mais je pense qu'il faut que ça soit étudié, parce que dans l'absolu, on pourrait dire oui, bien sûr.
C'était une promesse d'Emmanuel Macron, une promesse de campagne.
C'était une promesse de campagne. Après, il faut voir comment on la met en œuvre. C'est-à-dire que si c'est pour dire, comme pour les collectivités territoriales, on va supprimer la taxe d'habitation, alors ça fait plaisir de supprimer la taxe d'habitation, mais derrière, quelles sont les recettes? Comment vont faire les collectivités demain pour assurer un certain nombre de services si elles n'ont plus ces recettes? J'ai envie de dire, pour les cotisations sociales, c'est un peu la même chose pour la sécurité sociale. Nous avons un système qui, certes, n'est pas le plus parfait au monde, mais qui quand même assure une couverture sociale, somme toute, on va dire, allez, relativement satisfaisante. Si demain, il n'y a pas une compensation de ces cotisations que les salariés ne seraient plus amenés à payer, il va y avoir un problème de couverture sociale, et encore une fois, ce sont les plus modestes qui vont en pâtir. Donc, dans l'absolu, on pourrait se dire oui, pourquoi pas. Dans la réalité, je pense que c'est une vraie difficulté. Vous savez, c'est un peu comme pour les impôts. Les gens disent les impôts, oui, mais enfin, les impôts permettent quand même la solidarité sur le territoire, parce que si demain il n'y avait plus d'impôts, eh bien, il y a des équipements publics qui n'existeraient plus. Ce qu'il faut, c'est que ces impôts soient justement répartis de telle manière que ces impôts soient proportionnels à ce que les gens gagnent. Pour les cotisations sociales, c'est un peu le même sujet. C'est-à-dire que, bien sûr, que si elles étaient allégées, voire supprimées, ça serait sans doute, pour un certain nombre de personnes, extrêmement intéressant. Pour autant, il faudrait bien que la sécurité sociale continue à fonctionner.
Alors, une suppression des cotisations sociales qui sera compensée par l'augmentation de la CSG pour tous de 1,7 point. Vous êtes d'accord sur le principe de l'augmentation de la CSG ?
Non, je ne suis pas d'accord avec l'augmentation de la CSG, de la même manière que je ne suis pas d'accord sur le même angle avec, par exemple, l'augmentation de la TVA, parce que je trouve que sur la CSG, ça va notamment impacter beaucoup sur les personnes retraitées, et des personnes retraitées d'ailleurs à revenus extrêmement modestes. Et je trouve que c'est une mesure extrêmement injuste qui va pénaliser toute une catégorie de la population. Je préférerais que M. Macron prenne davantage d'argent chez les gens extrêmement riche, parce que pour l'instant, il a quand même plutôt tendance à les favoriser dans les mesures qu'il a décidées.
Une question d'actualité, qu'est-ce que ça vous inspire, le scandale des Paradise Papers ? On s'aperçoit que de grandes sociétés contournent justement l'impôt, apparemment de manière légale, mais ça n'est pas très moral.
Absolument, vous avez raison de le dire. C'est dramatiquement légal. Je dis dramatiquement légal, parce que là, je trouve que d'un point de vue de la législation, on a un vrai problème. Et évidemment, je trouve ça extrêmement scandaleux que des gens, finalement, aillent cacher leur argent dans des paradis fiscaux et donc s'affranchissent, finalement, de ce qu'ils devraient régler, encore une fois, de ce qu'ils devraient régler pour la solidarité, pour la société et pour celles et ceux qui en ont besoin. Je trouve ça extrêmement choquant. Ça signifie qu'il y a encore, pour le législateur, à tous les niveaux, pas seulement national, mais je pense que c'est aussi une question qui dépasse évidemment notre simple territoire, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour une plus juste répartition des moyens, et surtout pour vérifier que celles et ceux qui devraient cotiser le fassent.
On va parler dans la deuxième partie de cette émission de votre sujet qui est l'éducation. Tout de même, à quoi sert le Parti Socialiste là, pendant les 4 ans et demi qui vont se dérouler ? Donc vous avez parlé d'opposition constructive, mais concrètement, c'est quoi les échéances pour le Parti Socialiste ?
Vous savez, je pense que tant qu'il y aura des injustices, tant qu'il y aura des inégalités dans notre pays et ailleurs, les socialistes seront nécessaires pour défendre, pour protéger, pour progresser et pour faire avancer vers une société plus juste, plus solidaire. Et donc, notre travail, c'est d'abord, nous, de réfléchir à ce qui vient de se passer dans la séquence et puis surtout à nous refonder. Je pense qu'aujourd'hui, notre grande faiblesse, à nous les socialistes, c'est que lorsque vous interrogez les gens, sur les socialistes, les gens ne savent pas ce que les socialistes pensent des grands sujets de notre société. Et je pense que le travail que nous avons à faire d'ici aux prochaines échéances, c'est finalement de nous construire, de construire une ligne politique claire, avec des positions claires sur un certain nombre de grands sujets de notre société, pour lesquels aujourd'hui, les Françaises et les Français ne savent pas ce que les socialistes pensent.
C'est tout de même un paradoxe, puisque vous avez été au pouvoir pendant 5 ans avec François Hollande.
Mais bien sûr, mais je pense que, vous savez, je pense que le bilan du quinquennat de François Hollande est bien meilleur que le sens que nous n'avons pas su lui donner. Je pense que ce qui a manqué dans le précédent quinquennat, c'est le récit politique. C'est de donner un sens aux mesures qui ont été prises et d'expliquer aux Françaises et aux Français, à nos concitoyens, ce vers quoi nous voulions les amener au bout du bout. Et que finalement, ce quinquennat a été une juxtaposition d'un certain nombre de mesures qui ont pu constituer des avancées. On en parlera peut-être tout à l'heure. Par exemple, je pense que le domaine de l'éducation, jamais un gouvernement n'avait autant privilégié l'école de la République. Autant, nous n'avons pas su finalement expliquer et donner un sens aux mesures qui étaient mises en place.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel avec Yannick Trigance, conseiller régional d'Île-de-France, secrétaire national adjoint au Parti Socialiste chargé de l'éducation. Alors avant la pause, vous nous avez dit que le quinquennat de François Hollande avait été remarquable précisément sur les questions d'éducation. Faisons d'abord un premier bilan avant de parler de ce que fait le ministre actuel Jean-Michel Blanquer. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été réalisé sur l'éducation sous François Hollande ?
L'idée de départ et le principe politique qui a sous-tendu l'action du président de la République et de ses différents gouvernements et de ses différents ministres, en l'occurrence Vincent Peillon, Benoît Hamon et Najat Vallaud-Belkacem, que je salue, a été de considérer que tous les enfants sur le territoire de la République, quel que soit l'endroit où ils vivent, quel que soit le milieu d'où ils viennent, ont le droit de réussir leur parcours et ont le droit de réussir leur projet de vie. C'était ça le départ, le principe de départ. Ensuite, c'était évidemment le fait de considérer que la priorité devait être mise sur le premier degré, sur l'école maternelle, sur l'école élémentaire, parce qu'on sait que malheureusement, notre système éducatif non seulement reproduit les inégalités, mais qu'en plus, il les aggrave. C'est-à-dire qu'en France, le milieu duquel vous venez détermine votre réussite scolaire. C'est-à-dire que le système éducatif français est incapable, finalement, de mettre de côté, si je puis dire, les inégalités qui viennent de l'extérieur, est incapable de corriger cela, et que donc votre parcours, il est déjà un peu déterminé en fonction du milieu d'où vous venez. L'idée était donc de donner, en termes notamment de moyens et de priorités, les moyens à l'école maternelle et à l'école élémentaire. Ça passait par quoi ? Ça passait d'abord, bien évidemment, par les postes d'enseignants, parce qu'on a oublié, mais lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en 2012, mon département, par exemple, et la ville,
la Seine-Saint-Denis,
il y avait 0% d'enfants de moins de 3 ans qui étaient scolarisés parce que Nicolas Sarkozy avait supprimé tous les postes. Aujourd'hui, et à la fin du quinquennat de François Hollande, nous sommes remontés à 7%. Donc ça a été, bien évidemment, vous le savez, les 60 000 postes qui ont été créés pendant 5 ans. Ça a été aussi, bien évidemment, la formation des enseignants, parce qu'on sait que, pour que les enfants réussissent, il ne suffit pas de mettre 12 enfants dans une classe, on en reparlera tout à l'heure, mais il faut que les enseignants soient formés. Or, la formation avait été supprimée. Et puis, je pourrais multiplier les mesures sur l'éducation prioritaire, avec des moyens supplémentaires, sur la pédagogie aussi. Les programmes avaient été revus. Il y avait eu également formation initiale, je l'ai dit, des enseignants, formation continue et tout un ensemble de mesures pour remettre la priorité sur le premier degré, avec aussi la réforme des rythmes scolaires, puisque...
Là, c'est plutôt un échec. Alors, Yannick Trigance, la réforme des rythmes scolaires.
C'est un échec parce que je pense que nous n'avons pas su... suffisamment expliquer les choses et que peut-être dans la méthode aussi, nous ne nous y sommes pas pris sans doute de la meilleure manière, mais quand même.
Avec en plus l'obligation pour les mairies de financer tout cela alors que certaines mairies avaient peu de moyens.
Oui, enfin il y a quand même de l'argent qui a été donné aux mairies pour pouvoir mettre en place ces activités. Je rappellerai quand même, tout à l'heure j'évoquais le système éducatif en disant qu'il était le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE, c'est que nous avons quand même aujourd'hui, une situation tout à fait particulière où nous avons l'année scolaire la plus courte et où nous avons les journées scolaires les plus longues. 6 heures pour des enfants, y compris de 3 ans. Donc l'idée était de raccourcir un petit peu la journée et d'avoir plus de jours de classe dans la semaine avec notamment les 5 matinées. Parce qu'on nous dit que les journées étaient trop longues, que les enfants sont fatigués, sauf que là, avec ce qui vient de se passer... On a supprimé une journée de classe, enfin une matinée de classe. On est revenu à 4 jours, donc avec des journées encore plus longues. Ce n'est pas comme ça que les enfants vont être moins fatigués. Ce n'est pas en travaillant plus longtemps chaque jour. Donc, cette réforme n'a pas été, c'est vrai, suffisamment bien expliquée. Je reste persuadé. Vous savez, avant cette réforme, nous avions en France, on n'en a pas assez parlé non plus, nous n'avions en France qu'à peu près 28% des enfants qui bénéficiaient d'activités extrascolaires, c'est-à-dire qui allaient à la musique, qui allaient au sport, en dehors de l'école. Avant, c'était souvent donc le mercredi. Avec la réforme des rythmes scolaires, on est passé quand même à 90% des enfants sur le territoire français. Donc, quand on est...
Sauf qu'il y avait tout de même une inégalité dans ces activités périscolaires. Certaines mairies ont joué le jeu avec des animateurs formés, et puis dans d'autres villes, c'était, il faut l'avouer, de la garderie.
Oui, mais là, encore une fois, c'était... d'abord, les inégalités, je le rappelle, elles existaient avant la réforme des rythmes scolaires. Parce que de tout temps, il y a des municipalités qui ne mettaient pas grand-chose en place et puis d'autres qui mettaient des choses en place. Donc ça n'a pas aggravé les inégalités, elles existaient déjà avant. Par contre, on a quand même considérablement augmenté le nombre d'enfants qui pouvaient bénéficier d'activités en dehors du temps de l'école. Et quand on veut lutter contre les inégalités, c'est quand même quelque chose d'intéressant.
Alors, on a parlé de ce qui s'est passé sous le précédent quinquennat. Parlons d'aujourd'hui, Yannick Trigance. Est-ce que le dédoublement des classes en CP dans les écoles des zones d'éducation prioritaire est un succès ? Est-ce qu'on peut évaluer les avantages et les inconvénients de cette mesure qui a été mise en place lors de la dernière rentrée scolaire ?
Alors, si vous me permettez, moi, je voudrais tout d'abord dire à l'endroit du ministre de l'Éducation nationale que défaire à tour de bras, détricoter à tour de bras des dispositifs, ça ne peut pas faire une politique éducative. Je dis ça parce que le ministre de l'Éducation nationale, depuis qu'il est arrivé, détricote un certain nombre de dispositifs. J'ai parlé de la réforme des rythmes scolaires, de celle du collège. Je pourrais parler du dispositif plus de maîtres que de classes. Et je vais faire le lien avec les CP A12. Moi, sur les CP A12, ce que nous disons au Parti Socialiste, c'est que nous ne sommes pas opposés à avoir 12 enfants dans une classe de CP. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas dans une opposition, voyez. Mais ça ne suffit pas. Parce que moi, dans une autre vie, j'ai été inspecteur de l'éducation nationale et un enseignant, s'il n'est pas formé, il va enseigner de la même manière à 30, à 20 ou à 10. Donc, de mettre 12 élèves dans une classe, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut un qui ait des locaux, parce qu'on a quand même beaucoup de villes qui se sont retrouvées avec une absence de locaux et qui ont dû, pardonnez-moi l'expression, bricoler des choses dans des conditions quand même assez compliquées. Deux, il faut bien évidemment former les enseignants, pédagogiquement, en formation initiale, mais aussi en formation continue. Donc, c'est ça le fond du sujet. Donc, les CP à 12, pourquoi pas ? Mais, vous voyez, je pense qu'il ne faut pas brandir des hochets comme ça en annonçant des mesures. Là, on nous annonce, on nous parle des devoirs faits au niveau du collège.
Ça, c'est la mesure qui a été annoncée mise en place
là,
cette semaine.
Voilà, on en reparlera aussi. Vous savez, c'est moi, le sentiment que j'ai, c'est que le ministre fait des annonces pour un petit peu aller dans le sens des choses. Mais derrière... c'est un peu d'ailleurs comme la réforme des étudiants, on en parlera peut-être. Mais derrière, il faut pouvoir faire ça dans de bonnes conditions avec un certain nombre de moyens. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'on est plutôt dans des effets d'annonce. On verra à l'œuvre, bien évidemment, comment les choses se passent. Pour répondre très concrètement sur les CP à 12, pas d'opposition au départ, mais il faut un certain nombre de garanties et un certain nombre d'exigences pour que ça se passe bien.
L'opération devoir fait, cela consiste à inciter les collégiens d'abord à faire leurs devoirs à l'école. L'objectif, c'est de réduire les inégalités scolaires. Vous parliez tout à l'heure de l'égalité des chances nécessaire puisque l'école reproduit les inégalités. Il y a effectivement des parents qui peuvent aider leurs enfants et des parents qui ne le peuvent pas. Est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne solution de demander aux enfants volontaires, pour l'instant, de faire leurs devoirs au collège ?
Moi, si le ministre s'inscrit dans la lutte contre les inégalités, bien évidemment, je ne peux que souscrire à cette lutte contre les inégalités. Une remarque, les devoirs faits, beaucoup d'établissements de collège le faisaient déjà. Auparavant, hein, donc ça n'est pas une nouveauté. Après, encore une fois, moi, ce que j'observe, premièrement, c'est la faiblesse des moyens financiers, Deuxièmement, là encore, une absence de réflexion approfondie quant aux modalités de mise en œuvre. C'est-à-dire, comment on met ça ? C'est bien de dire, allons-y, tout le monde fait les devoirs. Oui, mais comment les enseignants ils vont faire, là, concrètement, dans les collèges ? Nous, ce que nous disons et ce que nous souhaitons, c'est que ça soit mis en œuvre et coordonné par des enseignants. Très important.
Là, il semble qu'il y ait notamment des jeunes en service civique.
Oui, mais là encore, quelle est la formation ? Parce que les parents le savent bien. Enfin, quand même, pour aider des collégiens à faire des devoirs, il faut quand même être un petit peu formé. À la fois sur le contenu, mais aussi sur la méthode pédagogique. C'est pour ça que nous, au Parti Socialiste, nous disons qu'il faut que les personnels soient formés. Et même, nous allons plus loin, nous disons que, normalement, dans l'absolu, ce qu'il faudrait, c'est que ces devoirs soient faits en classe, à des horaires adéquats, pour que tous les élèves, lorsqu'ils sortent, n'aient plus de devoirs à faire chez eux. Mais là, la manière dont les choses vont se passer... Moi, je suis quand même un petit peu inquiet. Et d'ailleurs, les enseignants aussi. Troisième élément, le ministre de l'Éducation nationale est très fervent des évaluations. Depuis qu'il est arrivé, il dit « on évalue, on regarde, etc. » Je souhaiterais, je n'ai pas de conseil à lui donner, il connaît bien le domaine de l'éducation, mais le dispositif qu'il nous présente là, il a déjà été mis en œuvre. Il a été mis en œuvre en Angleterre. C'est un dispositif qui s'appelait Teaching Assistance. Et il y a une évaluation du dispositif, et comme je sais que M. Blanquer est féru des évaluations, il devrait se pencher, parce qu'il y a des résultats publics qui ont été rendus il y a quelque temps, et qui disaient que lorsque les conditions n'étaient pas réunies, eh bien finalement, c'était un système extrêmement contre-productif. D'où les propositions que nous faisons en exigeant un certain nombre de garanties, de qualité. Nous pensons qu'il faut que ça soit les enseignants ou des profs ou des personnels formés à la pédagogie pour pouvoir expliquer les choses et encore une fois, que ça soit mis dans la mesure du possible. Nous, ce que nous souhaiterions, c'est que ça soit fait au sein des classes.
On voit aussi qu'il y a de nombreuses sociétés qui ont été créées ces dernières années. Ségolène Royal en parlait d'ailleurs quand elle était candidate en 2007. Des sociétés qui aident aux devoirs, ce sont des sociétés payantes. On ne va pas citer de nom pour ne pas leur faire de publicité. Mais est-ce que finalement, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte de privatisation de l'école qui ne dit pas son nom et que finalement, les devoirs à l'école, c'est une façon de lutter contre cette privatisation de l'école si ça se fait au sein de l'école.
Mais vous avez tout à fait raison. Il y a aujourd'hui une forme, il y a une marchandisation. Bien sûr, c'est un vrai marché aujourd'hui. On ne va pas citer, vous l'avez dit, vous savez que c'est un manque à gagner pour l'État qui est de plus de 1 milliard d'euros par an, cette affaire.
Pour quelle raison?
C'est défiscalisé à 50% et que ça bénéficie, cette défiscalisation, ça bénéficie aux familles qui en font profiter leurs enfants. Et ce ne sont pas toutes les familles qui peuvent se permettre de payer des cours. Et donc, c'est défiscalisé à 50%. Donc, vous avez un manque à gagner, évidemment, pour l'État, qui est évalué aujourd'hui à plus de 1 milliard d'euros par an. C'est ça, la réalité. Donc, c'est une aggravation des inégalités, parce qu'il y a des parents qui ne peuvent pas le faire.
On aurait pu imaginer, finalement, un tel service, mais un service public.
C'est ce que nous proposons, c'est ce que nous disons. Quand nous disons qu'il faut que cela soit fait par des enseignants ou par des professionnels, par des gens formés sur le temps scolaire dans la mesure du possible, dans les locaux, c'est exactement ce que nous disons.
Mais des gens qui seraient payés en conséquence.
Absolument. Absolument, il faudrait que ces gens-là soient payés, encore une fois, parce que des parents se retrouvent en grande difficulté par rapport à cette question des devoirs.
Yannick Trigance, l'été dernier, des milliers de nouveaux bacheliers se sont trouvés sans affectation après avoir utilisé la plateforme informatique APB. La ministre de l'Enseignement supérieur promet qu'il n'y aura plus de tirage au sort. Comment vous expliquez le grand cafouillage autour d'APB ? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir remédier à ce problème?
Bien. Premièrement, oui, effectivement, on a vécu des situations absolument ubuesques. Vous aviez de jeunes étudiants, de jeunes lycéens, bacheliers avec d'excellentes moyennes qui se retrouvaient sans aucune affectation, alors que d'autres avec des notes et pas forcément la même volonté d'intégrer telle ou telle filière, se retrouvaient eux. Donc là, pour le coup, en termes d'injustice, on était vraiment au summum et que donc il fallait effectivement revoir cette question-là. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut d'abord considérer cette question-là en se disant... Moi, je pense qu'il faut être, franc, il faut mettre les choses sur la table. Je pense que ce qui est proposé aujourd'hui par la ministre, au bout du bout, dans certaines filières, restera une forme de sélection. C'est-à-dire que dans les filières où il y a beaucoup de candidats et où il n'y a pas assez de place, au bout du compte, ce qui risque de se passer, c'est que ce sont les universités qui vont choisir leurs élèves parmi les très nombreuses candidatures. Donc, quelque part, c'est une forme de sélection déguisée qui ne dit pas son nom. Deuxièmement, je pense qu'il faut absolument, et ça n'apparaît pas dans le projet qui nous est présenté, établir des passerelles entre les lycées et entre les universités. Il faut revoir la question de l'orientation. Je voyais ce matin la ministre qui s'exprimait dans un grand quotidien avec les éditions départementales, donc Le Parisien pour ne pas le citer, qui accordait une interview et qui parlait de l'orientation. Mais l'orientation aujourd'hui, ce qui se dessine, c'est que ça va reposer très très fortement notamment sur les lycées, puisque maintenant il va falloir un deuxième professeur principal. Les conseils d'école vont émettre des avis, mais il faut qu'ils soient préparés, il faut que le lycée soit préparé à cela. Donc, quid des conseillers d'orientation? Est-ce qu'il y aura plus de conseillers d'orientation? Comment les jeunes vont être accompagnés? Tout cela met, je trouve, beaucoup de pression sur les lycées. Et puis enfin, c'est l'engagement financier. La conférence des présidents d'université s'est exprimée il y a quelque temps et a budgété financièrement ce qui serait nécessaire. Et le budget proposé aujourd'hui par la ministre est moitié moins que ce dont on aurait besoin.
Vous êtes opposé d'un point de vue idéologique à la sélection à l'université. Est-ce qu'il ne serait pas raisonnable de permettre à tous les bacheliers de choisir la filière qui leur correspond le plus pour éviter l'échec en première année universitaire et donc instaurer une forme de sélection?
Non, je pense que pour justement permettre à chaque étudiant d'être dans un parcours qu'il a choisi et pour lequel il est préparé, je pense que on peut dès le lycée travailler sur l'information, sur l'orientation, sur l'accompagnement pour justement faire que les premières années que les jeunes puissent choisir en connaissance de cause, qu'on puisse ensuite les accompagner, parce que quand même on est aujourd'hui dans des situations absolument ubuesques où vous avez par exemple de jeunes bacheliers de l'enseignement professionnel ou technologique qui devraient normalement intégrer des filières telles que les BTS ou les IUT et qui ne peuvent pas accéder à ces filières-là parce que ces filières sont prises par des lycéens qui viennent des sections d'enseignement général. Il y a quand même un problème dans notre pays et que donc ces jeunes bacheliers technologiques et d'enseignement pro se retrouvent en première année universitaire où ils échouent à plus de 80%. Donc il y a quand même bien un problème en amont sur l'orientation, sur la préparation et sur l'accompagnement des jeunes.
Yannick Trigans, vous êtes un élu de banlieue. Récemment, des élus des quartiers populaires ont lancé l'appel de Grigny pour que l'on s'occupe enfin de ces quartiers après 40 ans de politique de la ville qui n'a finalement pas réduit les inégalités. Le gouvernement va instaurer des emplois francs l'an prochain. C'est une bonne solution pour lutter contre le chômage, notamment le chômage des jeunes?
Les emplois francs, d'ailleurs, c'est un dispositif, je crois, sous Jean-Marc Ayrault. On avait déjà eu ce type de dispositif. Donc, moi, je pense que tout ce qui peut aller dans le sens d'une amélioration et d'une intégration de notre jeunesse, notamment par l'emploi, peut aller dans le bon sens. Et donc, je ne suis pas a priori dans le rejet systématique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, il faut regarder comment les choses peuvent avancer sur la politique de la ville. Oui, vous avez raison. Toutes ces années n'ont pas été suffisantes pour, encore une fois, réduire les inégalités et faire sortir notre jeunesse et toutes celles et tous ceux qui y habitent. Les inégalités sont encore importantes. Il y a quand même eu des choses de fait. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Je pense que sur la question de l'urbanisme, tout de même, il ne faut pas non plus dire que tout va mal. Il y a un avant et un après. Mais je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bout, que l'urbanisme, c'est bien et c'est très important. Après, c'est la question de la vie à l'intérieur de ces quartiers, de la présence des services publics, quels qu'ils soient, de aussi services comme la poste, parce que vous avez malheureusement des quartiers où il n'y a plus de poste, où il n'y a plus de commerçants. Et donc, parfois, il n'y a plus que l'école. Et donc c'est aussi tout cela et puis la vie associative, la vie citoyenne, le lien social, le vivre ensemble. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On ne peut pas quand même dire qu'il n'y a rien eu de fait. Je pense que ça serait très caricatural.
Merci Yannick Trigans. Je rappelle que vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, secrétaire national adjoint du Parti Socialiste chargé de l'éducation. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.